Nelson Mandela, c'est la persévérance. Passer 27 ans de sa vie en prison et penser que sa liberté doit être le prix qu'il donne à la dignité, c'est-à-dire préférer être enfermé plutôt que de céder, c'est quand même le plus beau des messages. Mais c'est la persévérance parce qu'il sait qu'il va gagner. Il sait que ça va durer longtemps, mais qu'un jour il sera libéré et son peuple avec lui. Donc c'est aussi un message d'espoir.
François Hollande, d'autres mots, ceux de Barack Obama. Les mots de Madiba sont une boussole dans une mer de changement, une terre ferme au milieu des courants agités. Voilà ce qu'a écrit Barack Obama à l'image, à destination de Nelson Mandela. On célèbre en effet ce mois-ci le centenaire de cette figure de la dissidence, militant anti-apartheid, premier président noir de l'Afrique du Sud. À cette occasion, les éditions Robert Laffont publient ses lettres de prison, 250 lettres écrites au fil des jours durant ces 27 années de détention, traduites de l'anglais par Jean-Guy Loineau, préfacées par Zamaswazi Dlamini Mandela, l'une de ses petites filles. Une correspondance qui traduit l'engagement, comme elle révèle la vulnérabilité d'un homme. Invité aujourd'hui, l'historien Fabrice Delmeda, professeur à l'Université Paris 2, Panthéon-Sorbonne, auteur, quant à lui, de Nelson Mandela, paru au PUF, un petit ouvrage qui dresse le portrait d'un dirigeant, d'un homme, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts, des secrets. L'icône, c'était risqué, mais à travers aussi ces phases et cette face un peu plus sombre de Nelson Mandela, on peut comprendre aussi la formidable humanité qui a porté son action. Vous êtes par ailleurs, Fabrice Delmeda, le réalisateur d'une grande traversée sur Madiba qui a été diffusée sur notre antenne en 2013 et dont cet ouvrage est peut-être aussi en partie la prolongation. Bonjour à vous.
Bonjour Olivia.
Pourquoi avoir écrit ce petit livre avec une telle intention de désacralisation?
Ben c'était un peu la promesse, parce que vous l'avez dit, ce livre est né ici, sur cette antenne, il y a maintenant presque 7-8 ans, quand Sandrine Trainer et Olivier Poivre d'Arvor m'ont demandé de faire une grande traversée sur l'Afrique du Sud, et dans laquelle il y avait toute une partie biographique, on va dire, sur Mandela. Et à l'époque, moi, je suis un enfant des années, je suis né dans les années 60, j'ai grandi politiquement après 81, et c'est le moment justement où Mandela est la figure du plus vieux prisonnier politique du monde, qu'il y a toutes ces mobilisations antiracistes en France, en Angleterre, le grand concert de Wembley en 1988. Donc c'était une figure qui était présente pour moi et qui portait un message. Et donc voilà, il fallait faire ça. Mais en même temps, comme je suis historien, j'ai toujours ce petit côté un peu poil à gratter. C'est-à-dire que j'ai toujours du mal avec les idoles, avec les icônes. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a plus que la simple admiration à leur portée. Il y a aussi un regard un petit peu critique. Et d'ailleurs, Mandela lui-même nous y invitait entre nous. Il a toujours dit, c'était sa phrase, je ne suis pas un saint.
Voilà. Que vous reproduisez. Et qui dit grande traversée, Fabrice Delmeda, dit voyage, c'est-à-dire que pour l'occasion, vous êtes parti en Afrique du Sud, vous avez rencontré plusieurs témoins, personnes qui l'ont côtoyé dans sa lutte, qui ont assisté aussi à sa sortie de prison, à un Mandela président, ces différentes étapes de sa vie et de son combat. Vous l'avez rencontré lui aussi.
On l'a croisé, mais en fait, en 2011, déjà, Mandela était... comment dirais-je, sa mémoire était très très faible. C'était Georges Bizos qu'on avait rencontré, qui nous avait dit, il commence une phrase aujourd'hui, il l'a fini en 1950. Et donc sa famille le protégeait. On avait rencontré son petit-fils, Ndaba Mandela, qui a été, qui est musicien, qui est producteur. Et donc on est allé dans la maison, on l'a vu. Mais on n'a pas pu lui parler, l'approcher en fait.
En aparté, figurez-vous que commence lundi la première grande traversée de l'été sur France Culture. Vous savez à qui elle sera consacrée. Alors pas à Nelson Mandela, sinon vous l'aurez demandé, mais au combat de Mohamed Ali. Elle est réalisée par Judith Pérignon.
Ouais,
Mohamed Ali, c'est une autre figure d'insoumis, hein, une autre figure d'homme aussi, dévoré par sa légende quelque part.
Hein. Oui, et puis mais avec le même esprit de dissidence, parce qu'il faut se souvenir que Mohamed Ali, il y a le boxeur, le magnifique champion, mais il y a en même temps le personnage hostile à la guerre du Vietnam, celui qui va devenir un black muslim, donc qui va devenir justement Mohamed Ali alors qu'il était Cassius Clay. Donc il y a cette dimension, et c'est vrai que ces années 60, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ces années 60, Mandela va les passer à partir de 1962 en prison, alors que justement toute une autre culture est en train d'émerger, dont il va participer et qu'il va représenter, mais avec retard, seulement dans les années 90.
Alors pour dresser le portrait de Nelson Mandela, Fabrice Dalméda, vous êtes reparti de ses mémoires, le long chemin vers la liberté. Est-ce que ça a été difficile de se détacher, là encore, du mythe ou des écrits biographiques, hagiographiques ou autobiographiques concernant la figure de Mandela?
C'est l'enfer. C'est l'enfer parce que d'abord, le livre est superbe.
Est-ce que finalement, celui qui n'était pas le plus objectif, c'était lui-même?
Oui et non, parce que, c'est là où on s'est tous fait avoir. Je crois que tous les historiens qui travaillent sur Mandela, il y en a un paquet aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Angleterre, on est tous un petit peu séduits par son texte. On a l'impression justement que comme il y a des confidences parfois sur des détails, mais un infinitésimaux, mais troublants, on a l'impression que c'est la plus grande honnêteté. Et en même temps, quand on a, ses compagnons de détention qui parlent, quand on a d'autres témoins qui évoquent le procès de Rivonia, qui évoque les attitudes des uns et des autres, ses avocats, ses compagnons, il y a d'autres aspects qui sortent. Je dis pas qu'il est moins bien, hein. Je dis qu'il peut être même parfois mieux à leurs yeux. Mais c'est clair que ce livre oriente toute notre réflexion. Il y a des éléments sur lesquels il y a que lui qui peut s'exprimer. Son enfance, sa jeunesse, en réalité, il y a pratiquement que lui qui était le témoin direct pour en parler. Donc on est tous un peu dépendants de cette source. Et là, les archives ne compensent pas.
De ses propres écrits. À lui, a évoqué ensemble cet événement qui est la sortie mondiale, celle d'une centaine de lettres, même 255 de lettres réunies dans un livre écrites par Nelson Mandela quand il était en prison, un Mandela militant, politique et prisonnier, mais aussi avocat, père, mari, oncle et ami, le témoignage d'une aventure collective et d'une résistance personnelle. Dans la préface, sa petite fille écrit « Le plus déchirant, c'est l'optimisme volontaire de nombreuses lettres à ma grand-mère et ses enfants. Peut-être qu'un jour nous ferons, peut-être qu'un jour nous irons », écrivait-il. Dès le premier jour de prison, dit sa petite fille, mon grand-père a décidé qu'il ne flancherait pas, ni n'hésiterait jamais. Au contraire, il insisterait pour que ses compagnons et lui soient traités avec dignité. Alors ça va être un nouveau document à porter aussi à votre connaissance.
Ouais, il y avait quelques lettres qui avaient déjà été publiées. Là, c'est, je crois, la correspondance complète. Et moi, je cite dans le livre une lettre qu'il envoie à Zinzi. On est début des années 70 et il est en prison, sa mère est en prison et il essaye dans ce cadre-là de jouer au père, c'est-à-dire de lui donner de l'espoir, de lui donner un cadre, de lui donner l'impression qu'au fond il y a quelque chose d'à la fois complètement démentiel dans leur situation mais qu'en même temps il y a une force et qu'il y aura un avenir. Ça c'est vrai que c'est assez troublant. Faut quand même se souvenir que pendant plusieurs années il n'a le droit qu'à 2 lettres par an. Faut avoir présent ça à l'esprit. Entre 62 et en gros 69, le moment où le régime carcéral est un peu adouci, je dis bien un peu, parce qu'il y a l'intervention internationale, parce qu'il y a la Croix-Rouge, parce qu'il y a cette mobilisation, 2 lettres par an, pratiquement pas de droit de visite.
Et ça, c'était pas un sort qui lui était réservé, c'était pour l'ensemble, je crois, des détenus politiques qui étaient en prison. Écoutez justement le témoignage de son traducteur sur ce sujet, parce qu'après, en dehors du rythme très rare de ses courriers qu'il avait le droit d'écrire, ses courriers étaient aussi lus et relus.
Les lettres est reçues et envoyées, passées à la censure. Il y a même une lettre de Nelson au directeur de la prison où il lui dit que les censeurs, qui sont des africaners purs et durs, qui corrigent avec des feutres en soulignant les mots, et parfois même ils découpent les mots quand ils ne plaisent pas, Nelson explique au directeur de la prison qu'il faudrait mettre des censeurs avec un niveau culturel un peu plus élevé parce que ils censurent des textes qu'ils ne comprennent pas en anglais et même en afrikaans. Et il donne comme ça une espèce de leçon au directeur de la prison avec un mépris pour les censeurs qui est extraordinaire.
Un courrier soumis à une réglementation draconienne, comme le raconte son traducteur Jean Guilouano, traducteur de ses lettres publiées aujourd'hui même par Robert Laffont. La censure, est-ce que vous l'avez retrouvée aussi à travers ses lettres, ses écrits parce que ça, c'est vraiment les années de prison qui nous disent aussi quelque chose de l'homme pendant cette détention, de cette force de la nature.
Mais elle commence avant. Enfin, faut quand même. Enfin, le régime sud-africain, c'était intéressant d'ailleurs la comparaison avec la Chine qu'on a eue tout à l'heure. Mais le régime sud-africain est un grand régime censeur. Et la première chose qu'il va faire contre ses adversaires, c'est de les frapper de ce qu'on appelle d'interdiction. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de s'exprimer en public, de faire des interviews médiatiques, dès les années 50, d'être mentionné par un journal. C'est-à-dire qu'ils sont frappés d'interdiction. C'est comme si c'était une mort sociale. Et Nelson Mandela a vécu ça. Tous les grands dirigeants de l'ANC ont vécu cela. Donc, au fond, la prison, elle continue ce régime où on les retrait de la société et où on les soustrait à un quelconque échange avec l'environnement. Donc, arriver dans ce cadre-là à faire passer des messages, ils vont y parvenir, mais en mettant en place des espèces de circuits parallèles en fonction des libérations, en fonction des visites d'avocats, etc. Ils vont même réussir à mettre une espèce de micro-télégraphe au fond qui leur permet de joindre l'ANC en exil à Lusaka. Dans la période de Robben Island, ils disent qu'à partir de 1965-66, ils ont leur réseau qui est à peu près établi. Ils arrivent à échanger en trois semaines. Mais après, ils changent de prison au début des années 80 et là, ça devient 3 mois. Et c'est encore plus compliqué. Mais les lettres, effectivement, sont le témoignage. Enfin, moi, ce que je trouve émouvant, c'est d'avoir à la fois les lettres familiales et la dimension.
À sa femme, voilà, à ses enfants.
Qui
est...
Ben oui, parce que
nous, parle parfois de choses très quotidiennes, de lectures qu'il a, et de la vie qu'il peut avoir sur le moment et puis des espoirs qu'il porte pour sa famille.
Et puis tenter de suivre la scolarité de ses enfants, les encouragements, les maladies, les blessures, essayer de rassurer en permanence. C'est une attitude qu'ont beaucoup de prisonniers, ça, essayer de rassurer leurs proches. Et ce qu'il y a, c'est que nous, on a la vision de Winnie Mandela, j'allais dire, elle aussi transformée en statue. Mais cette femme, il faut se souvenir qu'elle est mise en prison dans les années 60, fin des années 60, 70. Elle vit une détention, elle est torturée, elle craque, elle s'en remettra très très difficilement de ça. Donc c'est un être fragile aussi qui vit, avant 1976, une extrême solitude. Parce qu'après, elle est un peu reprise en main par le mouvement, mais elle est dans une situation assez dramatique.
Et pourquoi écrivez-vous à son sujet, Fabrice Almeida, Queenie, qui l'épouse en 58, deviendra la face cachée de Nelson ?
La face cachée ou la face sombre ? La face sombre, pourquoi ? Parce que à partir justement de 76, elle devient un vrai leader politique. D'abord, elle était la voix de Mandela, mais après 76, pourquoi ? Il y a les émeutes de Soweto, et elle est la seule dirigeante à prendre à partie les Sud-Africains en disant « vous tuez nos enfants ». Elle enlève sa chaussure, elle la jette sur les représentants de l'État lors d'une réunion du conseil municipal de Soweto. Donc c'est une figure qui tout d'un coup devient une patronne. Et elle est une patronne dure, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de transmettre les ordres de Mandela, mais elle s'occupe aussi de gérer une partie de son réseau à Soweto. Et dans cette gestion du Soweto Football Club, du Mandela Football Club, elle va avoir un penchant pour la violence et pour la torture qui a été démontré, qui explique qu'ensuite elle soit passée devant la commission Vérité et Réconciliation, qui a été quelque chose de déchirant parce que au fond on s'est rendu compte qu'elle a tué des gamins pour pratiquement rien. Tout le monde était soupçonné d'être traître, d'être à la solde des policiers sud-africains, et c'est vrai qu'il y en avait, et c'est vrai que la police sud-africaine infiltre tout, mais elle a fait ce pas supplémentaire dans la violence. Elle justifie les necklaces, elle justifie le fait que on exécute les traîtres en leur mettant autour du cou un pneu auquel on met le feu. Donc ces colliers de flammes pour tuer, qui font une véritable guerre civile en réalité dans les années 80, elle est pour. Donc vous voyez, cette vision-là, c'est pas du tout celle qu'on a de Mandela, qui est toujours jugée
elle
contre
était plus, elle était
comme
plus radicale
tolérant.
Que lui.
Dans un sens, oui, et surtout après 90, après la libération, lui essaye de négocier, d'éviter le pourrissement dans la guerre civile qui est en train d'avoir lieu, et elle, au contraire, elle pense qu'il faut y aller à la dure. Et donc, il est obligé de la désavouer. Elle continue de se balader en treillis, même après 94. Enfin, elle le met dans des situations un peu bizarres. Et en plus, elle, quand elle fait de la corruption, elle se fait prendre. Donc, résultat, il est obligé de se distancier, j'allais dire, même politiquement, ça devient pour lui dangereux de rester avec un lien officiel avec elle.
Winnie représente sa face sombre à cause des crimes et de la corruption qui lui ont été rapprochés. Mmh. Elle devient incontrôlable.
Mais l'a-t-elle jamais été ? Moi, je crois que justement, c'est pour moi, sa grande qualité, c'est qu'elle est incontrôlable. Et la grande qualité de Mandela aussi, c'est qu'il est incontrôlable. C'est qu'il a sa vision, et il la poursuit. Il fait parfois des choix erronés, il défend la torture, il prône la torture dans la recherche d'informations et dans la lutte contre les traîtres. Mais en même temps, il a cette capacité d'adaptation et d'intelligence de son époque qui est assez stupéfiante.
Ça, vous le racontez, Fabrice Almeida, tant de fois il a dit non à l'injonction qui lui était donnée, à l'ordre lancé, à la demande impérieuse de son ethnie, à la pression de ses proches, à l'état qu'il avait vu naître et même aux experts qui souhaitaient le conseiller. C'est la particularité de cet homme, presque sa marque de fabrique, plus qu'une posture de refus sans nuance. C'est un homme qui savait dire non.
Oui, c'est la vraie difficulté, c'est savoir dire non quand il faut et savoir aussi accepter de rentrer dans les négociations, ce qu'il fait à partir de la deuxième moitié des années 80. Il commence à rentrer, comme il dit officieusement, puisqu'il n'est pas le patron de l'ANC, il y a un patron de l'ANC qui s'appelle Oliver Tambo, qui est à Lusaka, mais lui, il commence à discuter avec le ministre de l'Intérieur Kobi Kotze, qui était pourtant aussi un des membres du Parti africain.
Écoutons ses mots, sa voix.
Voilà, nous entendons Nelson Mandela qui, voilà quelques minutes, au Cap, arrive devant la foule. Et là, salut en Zoulou. Mes chers amis, chers camarades et compatriotes sud-africains, je vous remercie tous au nom de la paix, de la démocratie et de la liberté pour tous. Je me tiens ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple.
Non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur, nul des prophètes en son pays. Quelle dimension s'accordait-il lui-même? Extrait de votre grande traversée, Fabrice Almeida, diffusée sur France Culture, qui n'est malheureusement plus accessible telle quelle, mais dont des extraits ont été diffusés, rediffusés dans les nuits de France Culture et qu'on peut toujours trouver en ligne. Là, on est le 11 février 1990. Nelson Mandela sort en homme libre des prisons d'Afrique du Sud, où il avait passé donc plus de 20 ans, 27 années exactement.
Avec une conscience de la mise en scène qui est hallucinante. Il faut imaginer que cet homme, on veut lui imposer une sortie...
Vous n'allez pas lui reprocher.
Non, mais je trouve que c'est là où l'intelligence, c'est ça. L'intelligence, c'est que à l'époque, De Klerk veut lui imposer de sortir d'une autre prison à Johannesburg. Non, il dit, je vais sortir de la prison où je suis détenu. Ensuite, on veut le faire sortir de la prison en voiture, parce qu'on se dit, pour des questions de sécurité, non, non, non. Lui, il dit, un homme libre, il sort à pied, en marchant. Donc, il fait arrêter la voiture, il descend de la voiture et il sort à pied de la prison devant toutes les caméras. Et ça, c'est là où on voit l'intelligence de la situation, parce que cette image-là, tout d'un coup, c'est vraiment son autonomie, sa liberté retrouvée. Et c'est une force inouïe d'avoir compris quel rôle allaient jouer les caméras de télévision dans sa nouvelle vie. Et lui qui avait été soustrait avait déjà, j'allais dire, toutes les qualités pour être un grand leader dans le monde des années 90, qui est déjà un monde extrêmement médiatisé.
Alors quelles sont ces fameuses erreurs que vous avez réussi à pointer expliquer aussi à travers cet ouvrage?
Il y a des erreurs, des petites erreurs factuelles. Par exemple, quand il est arrêté en 1962, il se rend à Durban et il explique aux gens qui sont autour de la table où il va aller ensuite. Donc en gros, il leur donne le moyen de le trahir et de l'attraper sur la route, et c'est ce qui va se produire. C'est un informateur de la CIA qui donne l'information à son correspondant. La CIA transmet l'information à la police politique sud-africaine, qui l'arrête à un carrefour et qui connaît son nom, son identité, la nature de sa voiture et même les vêtements qu'il porte. Tout ça, c'est une petite erreur de prudence. Mais au-delà de ça, moi, je questionne le fait qu'il ait décidé de passer à la lutte armée. Faut se rendre compte que quand il décide de passer en 1960 à la lutte armée, on est au moment où l'ANC est en train de gagner, d'une certaine manière, la bataille de l'opinion. Quelques temps après, le chef Albert Luthuli, donc le vrai patron de l'ANC, va avoir le prix Nobel de la paix, ce qui est un camouflet pour le régime sud-africain. Or, en passant dans la lutte armée, ce qu'il s'impose, c'est forcément d'être en relation avec l'Union soviétique, forcément de passer dans le bloc communiste. Et donc, à partir de ce moment-là, tout l'appareil occidental lui devient hostile. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CIA le suit, le dénonce. Ça veut dire que l'Angleterre le suit, essaye de le bloquer. Ça veut dire que tout un tas de pays qui auraient dû, logiquement, en termes de droits de l'homme, en termes même de philosophie, le soutenir, eh bien, lui tournent le dos. Même la France, au moment du procès de Rivonia, essaye de limiter l'impact des mesures qui sont prises à l'ONU contre l'Afrique du Sud.
Mais ça, c'est ces erreurs de parcours, entre guillemets, ça nous interroge aussi.
Voilà.
Des choix. Mais ça nous interroge aussi sur cette stature qu'il a pu acquérir avec le temps. Il a été libéré en 90, prix Nobel de la paix en 93, président en 94. C'est l'histoire qui l'a fait icône, où ce sont ses ennemis qui ont fabriqué le grand homme qu'il est devenu, ou son action et sa personnalité, ou les quatre conjugués.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est les quatre conjugués. Ce qui me frappe quand même, c'est une phrase qu'avait dit un de ses compagnons de détention qu'on a rencontré, qui ensuite a été ministre, accusé de corruption, qui s'appelle Mac Maharaj. Mac Maharaj, c'est un homme d'origine indienne, donc qui a été enfermé avec lui, et il dit « Nelson Mandela is not Mother Teresa ». C'est-à-dire Nelson Mandela, c'est pas la mère Teresa, c'est pas quelqu'un qui n'est que dans la bonté, c'est quelqu'un qui a été un chef politique, militaire, donc avec des actions. Et c'est vrai que les poursuites que l'État sud-africain a entamées contre lui l'empêchaient de faire le droit, parce que c'est là l'intelligence du type. Il commence à être juriste, il est avocat, et il trouve des stratégies pour bloquer le système judiciaire sud-africain à son propre jeu. On parle du procès de Rivonia, qui est le grand procès de 1964, où on juge toute la branche armée de l'ANC. C'est le fameux procès où il va dire qu'il est prêt à mourir pour ses idées, et qui va lui donner une vraie stature internationale. Dans ce procès-là, il y a une première partie dans laquelle le procureur sud-africain est défait. C'est-à-dire qu'il y a un non-lieu. Et il faut que la police politique immédiatement réarrête dans l'enceinte du tribunal les prisonniers pour refaire un deuxième procès. C'est pour ça qu'on parle du second procès de Rivonia. Donc si je vous dis ça, ça veut dire qu'ils étaient tellement forts juridiquement, ces hommes-là, qui réussissaient à coincer le système sud-africain à son propre jeu. Et vous voyez les correspondances qu'on peut faire avec la première partie qu'on a eue sur la Chine.
Exactement. Et vous disiez son talent, c'est aussi sa mise en scène, savoir se mettre dans la lumière, jouer avec les caméras. Il en avait un autre talent. Il était aussi historien, documentaliste de sa propre vie. C'est son traducteur Jean Guilouanneau qui raconte que déjà en détention, il était entré avec une somme de petits carnets dans lesquels il recopiait toutes les lettres qu'il envoyait, ces fameuses lettres, ces 250 lettres qu'on peut aujourd'hui lire, publiées par Robert Laffont, lettres de prison de Nelson Mandela. Il les a toutes recopiées, c'est-à-dire qu'il a écrit sa légende. Il savait pour vous qu'il allait avoir un grand destin.
Mais il sait déjà qu'il est un leader. Je veux dire, enfin, faut quand même. Il commence à être en détention alors qu'il est déjà le patron de la branche militaire de la principale organisation d'opposition noire en Afrique du Sud. Donc c'est quand même pas, c'est pas rien. Il a déjà passé la quarantaine. Donc c'est quand même quelqu'un qui est, c'est une figure qui est vraiment, c'est un homme mûr. Donc il sait déjà ce qu'il représente, et il a pu voir au moment de son arrestation, au moment de son procès, le soutien du peuple noir. Donc ça, il en a conscience. Et il a aussi l'expérience de celui qui a été formé par les Anglais. Parce que ça, c'est quand même le truc, c'est que cet homme, pour moi, c'est quand même un gentleman, comme on dit. C'était un gentleman Kosa. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a été formé dans les écoles, dans les collèges anglais, qui connaît le droit, qui connaît les grands textes fondateurs, qui connaît l'exemple des grands juristes britanniques, et qui se situe dans cette lignée-là. Il se pense comme un, j'allais dire, des légistes mondiaux, si on voulait le qualifier ainsi.
D'ailleurs, vous l'exemptez ou le légitimez, ou lui accordez votre reconnaissance aussi sur les dernières lignes de cet ouvrage que vous avez écrit sur lui, Nelson Mandela par Fabrice d'Almeida, au PUF, dans la collection Que sais-je. Bien sûr, Madiba a commis des erreurs, mais sa grandeur est d'avoir su les admettre, de s'être amendé et d'avoir poursuivi son effort au service de la liberté. En un mot, Fabrice d'Almeida, aujourd'hui, la figure de Nelson Mandela dans le monde, on sait, en Afrique du Sud.
Dans le monde, évidemment, c'est le personnage qui a eu le plus de rues accordées après sa mort, il faut le savoir, hein, devant Martin Luther King, devant John Fitzgerald Kennedy. Donc c'est vraiment une figure mondiale. En Afrique du Sud, ça reste quand même le père fondateur de la nouvelle nation. Et c'est en ce sens que nous, on le regarde comme un humaniste tolérant, c'est vrai, mais c'est aussi un nationaliste.
Non, parce que dans toutes ces sociétés, on a tendance à remettre, dans toutes nos sociétés, à remettre en cause ses héritages. À juste titre, peut-être aussi pour certains. Là, il reste une icône.
Oui, il reste une icône, et il reste vraiment le personnage le plus célèbre d'Afrique du Sud. C'est la boussole. On avait tellement peur que le pays se défasse après sa mort en 2013.
Merci beaucoup à vous, Fabrice d'Almeida. Nelson Mandela, aux éditions des Presses universitaires de France. Et puis les lettres de prison de Nelson Mandela viennent de paraître, c'était hier, sortie mondiale pour cet ouvrage, traduit partout dans le monde, chez Robert Laffont pour la version française, traduite par Jean Guilouanneau.